Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 48, Daf Mem Het. Bonne écoute et bon limoud.
Asuke Hevla, par contre, à propos de faire monter de la chaleur dans la caisse qui est posée par-dessus, ce qui était l'enseignement d'un des membres de l'école de Rabbi Yanaï, des états masqués Hevla, c'est seulement les déchets d'olives qui font monter de la chaleur, c'est pourquoi on n'a pas le droit de poser une caisse dans laquelle on a enfoui une casserole, même si c'était dans des matériaux permis, on n'a pas le droit de poser cette caisse sur des déchets d'olives seulement. Des shumshumin lomaske hevla, alors que des déchets de sésame ne font pas monter de la chaleur sur la caisse qui est posée par-dessus, et c'est pourquoi on aurait le droit de poser une caisse dans laquelle on a enfoui une casserole sur des déchets de sésame. Mais on n'a toujours pas de preuve qu'on aurait le droit d'enfouir une casserole directement dans des déchets de sésame pressés. Voilà pour le Daf Mem Zayin. Shabbat Daf Mem Chet. On reprend Daf Mem Chet à Moudalef, à la deuxième ligne de la page, le quatrième mot de la ligne. La Gemara raconte, Rabba et Rabbi Zera, Ikleu le Beiresh Galuta. Rabba et Rabbi Zera ont rendu visite au chef de l'exil, c'était en quelque sorte le prince des Juifs de Babylone. Chazioa le Aou Avda, de Anar Kouza de Maya, Apuma de Kumkuma. Ils ont remarqué un esclave qui posait une cruche d'eau froide sur une bouilloire d'eau chaude pendant Shabbat, cela pour réchauffer l'eau froide. Nazer Rabba. Rabba a grondé l'esclave, il lui a dit qu'on n'avait pas le droit de faire cela pendant Shabbat. Amarle Rabbi Zera, Maishna Mimecham al Gabe Mecham. Rabbi Zera a demandé à Rabba, en quoi est-ce que c'est différent du fait de poser une bouilloire sur l'autre pour la garder au chaud? On voit dans une braïta à la fin du Pérec que c'est permis pendant Shabbat. Comment se fait-il qu'ici tu dis qu'on n'a pas le droit de poser une cruche d'eau froide sur une bouilloire? En quoi est-ce différent d'une bouilloire qu'on pose sur l'autre? Amarle, Rabba a répondu à Rabbi Zera, Hatam, là-bas à propos d'une bouilloire qu'on pose sur l'autre. Okume kamokim. Tout ce qu'on fait, c'est seulement préserver la chaleur, puisque c'est une bouilloire qui est déjà chaude. Haha, alors qu'ici, à propos de la cruche d'eau froide, olude kamolid, il a réchauffé l'eau froide, c'est pourquoi on n'a pas le droit de le faire. Hadar Chazier, Rabba a encore vu cet esclave, des paras distodar apumei de kuva vernach natla il avait, qu'il a étendu un turban sur une jarre pour la couvrir et il a posé une aiguillère par-dessus. Nazer Rabba. Rabba a de nouveau grondé cet esclave, il lui a dit on n'a pas le droit de faire cela non plus pendant Shabbat. Amarle Rabbi Zera amai. Rabbi Zera a demandé à Rabba pourquoi, quel est le problème de couvrir une jarre d'un tissu ou d'un turban? Amarle hashtachazit, Rabba lui a répondu, tu verras tout de suite quel est le problème. C'est effectivement pas un problème en soi, mais ça risque d'entraîner un problème. Les sof, chazier de kama atzarle, en fin de compte, ils ont vu effectivement que l'esclave a pris ce turban et il l'a essoré, ce qui est interdit pendant Shabbat. C'était donc cela la raison de Rabba, c'était ça la crainte de Rabba, puisque si le turban se trempe, il risque de l'essorer, c'est pourquoi on n'a pas le droit de poser un turban pour couvrir une jarre. Amarle, Rabbi Zera a demandé à Rabba, Maishna de Miparonka, en quoi est-ce que ce turban est différent du tissu qui est fait pour couvrir une jarre qu'on a l'habitude d'utiliser pendant Shabbat, on a l'habitude de couvrir une jarre d'un tissu qui est fait pour et on ne craint pas qu'on va l'essorer. Pourquoi est-ce que ici il y a plus de crainte qu'à propos du tissu qui est fait pour? Amarle, Rabba lui a répondu, Hatam lokapid il avait. Là-bas, c'est-à-dire à propos du tissu qui est fait pour, il n'est pas dérangé par le fait qu'il soit trempé, et c'est pourquoi il n'y a pas de risque qu'il va l'essorer. Haha kapid il avait, alors qu'ici, puisque le turban n'est pas fait pour être trempé, il est dérangé par le fait qu'il se soit mouillé, et il y a beaucoup de risques qu'il va essorer le turban, c'est pourquoi on n'a pas le droit de couvrir une jarre d'un turban de peur qu'il ne va l'essorer après, ce qui est une interdiction pendant Shabbat. Nous avons vu dans la Mishnah, Velo Beteven, on n'a pas non plus le droit d'enfouir une casserole, même avant Shabbat, dans de la paille. La suite de la Mishnah est qu'on n'a pas non plus le droit d'enfouir une casserole dans des déchets de raisins pressés, ni dans des touffes molles de fibres, ni dans de l'herbe. Mais toute cette liste-là n'est interdite que si ces matériaux sont humides, puisque là, on considère qu'ils rajoutent de la chaleur, alors que s'ils sont secs, il n'y a pas de problème, on a le droit d'enfouir une casserole dedans. Bah, miné Ravada bar Matna me Abaye. Ravada bar Matna a demandé à Abaye. Mouchin shetaman bahen. Des touffes molles dans lesquelles on a enfui une casserole pour ce Shabbat. C'est donc le cas où ces touffes étaient sèches. Mahoul et taltelan be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de les déplacer pendant Shabbat? Normalement, ces touffes sont utilisées pour faire du feutre et elles ne sont pas destinées à être utilisées telles quelles. C'est pourquoi normalement elles sont mouktsées. La question est de savoir si maintenant il s'en est servi pour une utilisation telle quelle, qui est l'utilisation d'enfouir une casserole dedans, est-ce qu'elles perdent leur statut de mouktsé et elles sont maintenant considérées comme une chose qu'on emploie telle quelle, ou alors elles restent mouktsé. Amarle, Abaye lui a répondu, Vechim ipne she'en lo kupa shel teven, mais est-ce que tu crois que parce que une personne n'a pas maintenant de caisse de paille qui est très bon marché, qui est suffisante pour enfouir une casserole, Omed ou Mafkir Kupa Shel Mourin, il va maintenant abandonner carrément une caisse de touffe molle qui est chère et qui n'est pas habituelle pour être utilisée pour enfouir. C'est sûr que s'il l'a fait, c'est seulement maintenant parce qu'il n'a rien d'autre, mais il n'a pas l'intention de garder cette caisse pour enfouir tous les Shabbats. Et c'est pourquoi on considère ces touffes molles comme mouktsé, comme destinées pour faire du feutre. Lema Messayale. Le mardi, allons-nous dire qu'il y a une preuve d'une braïta à la vie d'Abaye. Il est dit dans cette braïta, Tomnin begizei tsemer, on a le droit d'enfouir dans des touffes de laine tondue, telle qu'elle, ou betsipei tsemer, et dans un tapis de laine peigné, ou bilsonot shel argaman, et dans des longues langues de laine teinte, en pourpre, ou vemurin, et dans les touffes molles de fibres, ven metaltelin otan, mais on n'a pas le droit de déplacer tous ces matériaux. On voit donc que, quoi qu'on ait enfoui dans ces matériaux-là, entre autres dans les touffes molles, leur statut n'a pas changé, et elles restent mouktsées. La Gemara réplique, Immishumha lo yiria. Si c'est seulement de cette braïta que tu vas apporter une preuve, ce n'est pas une preuve suffisante à la vie d'Abaye. Harika amar. Voici comment on peut interpréter cette braïta. Imlo taman bahen en metaltelin otan. Il dit dans cette braïta, si il ne s'est pas servi de ses touffes molles pour enfouir dedans une casserole, on n'a pas le droit de déplacer ses touffes. Mais si oui, on aurait le droit de déplacer ces touffes molles. C'est-à-dire que dans cette braïta, il est dit premièrement qu'on a le droit d'enfouir dans tous ces matériaux-là, et puis après il est dit que si on ne s'en est pas servi pour enfouir, les touffes molles sont mouktsées. La Gemara demande « Ihachi maile memra ». S'il en est ainsi, c'est-à-dire si on parle ici de ces touffes molles desquelles on ne s'est pas servi pour enfouir une casserole pendant ce Shabbat, qu'est-ce que la Braïta vient nous enseigner? Il est pourtant clair que les choses qui sont destinées pour faire du feutre sont mouktsées. Pourquoi est-ce que la Braïta doit nous dire cela? La Gemara répond, Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Chazil misga alayu, puisque ces touffes molles sont utilisables pour s'accouder, elles ne sont pas mouktsées. Kamashmalan, c'est ce que la Braïta veut nous enseigner, que si on ne s'en est pas servi pour enfouir une casserole dedans pour ce Shabbat, on ne considère pas ces touffes molles comme utilisables pour s'accouder et donc prêtes pour une chose telle qu'elle, mais elles sont mouktsées et on n'a donc pas de preuve de cette braïta comme la vie d'Abaye. Rav Chisda, Shara le Adurei Udra le Beisadia Beshabta. Rav Chisda autorisait de remettre des touffes molles ou du duvet dans un oreiller desquels ils étaient tombés pendant Shabbat. Etve Rav Hanan bar Chisda le Rav Chisda. Rav Hanan bar Chisda a posé une question à Rav Chisda en citant une braïta dans laquelle il est dit Matirin bet hatzavar be Shabbat. On a le droit de défaire le col d'un vêtement qui a été cousu par les blanchisseurs qui avaient l'habitude de coudre le col pour l'attacher, pour pouvoir blanchir le vêtement. Mais on avait l'habitude de l'ouvrir aussitôt après, et on a le droit de faire cela pendant Shabbat, avalo potrin, mais on n'a pas le droit d'ouvrir, c'est-à-dire de fabriquer un col dans un habit neuf pendant Shabbat, car cela est considéré comme finir la fabrication d'un objet pendant Shabbat. Ven notnin et amuchin, lo letoch hakar ve lo letoch hakeset beyom tov, et on a le droit de mettre des touffes molles, c'est-à-dire de rembourrer ni un oreiller, ni un édredon pendant un jour de fête, ven tsarich lomar be Shabbat, et il va sans dire qu'on n'a pas le droit de faire cela pendant Shabbat. On voit donc clairement qu'on n'a pas le droit de rembourrer un oreiller pendant Shabbat. La Gemara répond, lo kashia, ce n'est pas une question, il n'y a pas d'objection à l'avis de Rav Chisda de cette braïta. Ha bechate, cette braïta qui est interdit parle de mettre des nouvelles touffes qui n'étaient encore jamais dans cet oreiller, et c'est donc considéré comme une fabrication de l'oreiller pendant Shabbat, c'est pourquoi c'est interdit. Ha beatike, alors que Rav Chisda qui autorise parle de remettre des touffes qui étaient déjà auparavant dans cet oreiller, on ne fait que les remettre à l'intérieur, ce n'est pas considéré comme une fabrication, c'est pourquoi c'est permis pendant Shabbat. Tanya Namihari, nous avons effectivement appris dans une braïta exactement comme cette réponse qu'on vient de dire, En notnin et amuchin, lo letoch hakar velo letoch hakeset beyom tov, on a le droit de mettre des touffes molles, du rembourrage, ni dans un oreiller, ni dans un édredon pendant un jour de fête, Ventsarich lomar be Shabbat, et il va sans dire qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Il s'agit donc de mettre pour la première fois des touffes dans cet oreiller ou cet édredon. C'est interdit à la fois pendant Shabbat et jour de fête. Nashru marzirin otan be Shabbat, ventsarich lomar be yom tov. Alors que si ces touffes sont tombées de l'oreiller et l'édredon, on a le droit de les remettre, que ce soit Shabbat ou un jour de fête. C'est donc exactement comme la réponse de la Gemara à la question qui avait été posée sur l'enseignement de Rav Chisda. Amar Rav Yuda Amar Rav, apoter bet atzavar be Shabbat, Rav Yuda a dit au nom de Rav, celui qui ouvre le col d'un vêtement neuf pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il fait un trou pour le cou dans un vêtement neuf qui n'avait encore jamais été ouvert auparavant, Chayav Khatat, il a l'obligation d'apporter un sacrifice de Khatat, il a transgressé une interdiction de Horaïta, c'est le travail de Makebe Patish, celui qui fait toute finition d'un objet pendant Shabbat. Ici, il a fini le vêtement, et c'est pourquoi il a transgressé une interdiction de Horaïta. Matkifla Rav Kahana. Rav Kahana a posé une forte question sur cet enseignement.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Memchet Amud Bet. Il a demandé, Ma benzul migufat ravit. En quoi est-ce que cela, c'est-à-dire ouvrir le col d'un vêtement neuf pendant Shabbat, est différent du couvercle d'argile d'un tonneau qu'on a le droit de décapiter pendant Shabbat? Comment se fait-il que là-bas on a le droit de former une ouverture pour le tonneau pendant Shabbat? Ce n'est pas considéré comme une finition, un makeb et patish, la finition du tonneau. Alors qu'ici, on dit que faire une ouverture pour un vêtement est interdit, c'est même une interdiction de Horaïta. Amarle Rava Zechibur. Rava a répondu à Rav Kahana, ici, à propos du col, l'endroit du col ne forme qu'une pièce avec le reste du vêtement, c'est pourquoi ouvrir le col est considéré comme une fabrication d'un objet. Veze eno chibur, alors que le couvercle du tonneau, qui n'est pas, il ne fait pas partie du tonneau lui-même, il n'a été collé que pour être enlevé par la suite, il ne forme donc pas une pièce avec le tonneau, et c'est pourquoi enlever ce couvercle n'a pas d'importance, et ce n'est pas interdit pendant Shabbat. puisqu'on a vu une différence entre une seule pièce et deux choses collées qui ne sont pas considérées comme formant une pièce, la suite de la Gemara va parler de ce sujet à propos des lois d'impureté. Ramilei Rabbi Irmia le Rabbi Zera. Rabbi Irmia a posé une question à Rabbi Zera en opposant deux enseignements différents. D'une part, Tnan, nous avons appris dans une Mishnah de Uktsin, Shalal Shelkovsin, des pièces de linge qui sont enfilées ensemble par les blanchisseurs pour ne pas perdre de linge au lavage. Ils avaient l'habitude d'enfiler du linge ensemble et après de les défaire après le lavage. Veshalchelet shel maftechot et une chaîne de clés. Vehabeget shu tafur bekilaim et un vêtement qui est cousu avec du fil qui le rend chahatnez. Par exemple, deux tissus de laine qui sont cousus ensemble avec un fil de lin. On devra forcément défaire la couture pour pouvoir porter ces tissus, car sinon il y a une interdiction de chahatnez. Mais toutes ces choses-là, tant qu'elles sont encore attachées ensemble, Chibur le Touma, sont considérées comme formant une seule pièce par rapport à l'impureté pour devenir impur. C'est-à-dire que si une partie de ces choses-là était en contact avec une impureté et est devenue elle-même impure, c'est tout l'ensemble qui est devenu impur. Par exemple, par rapport au linge, si un des linges est devenu impur, le tout est devenu impur comme si c'était un seul grand linge et pas du tout comme des objets distincts qui sont l'un à côté de l'autre. Même si l'un devient impur, il ne peut en général pas passer l'impureté à l'autre puisque lui-même devient Rishon Latouma, premier de l'impureté. Il ne peut rendre un autre objet impur, seulement de la boisson ou des aliments. Mais ici, on considère que c'est un seul ensemble et c'est considéré comme si l'impureté avait touché le tout. Tout cela, Acheyatril lehatir, jusqu'à ce qu'il commence à défaire cet ensemble, là, c'est déjà considéré comme des choses à part. Alma, Shelo Beshat Melacha Namir Chibur. On voit donc de cette Mishnah que même après l'utilisation, c'est-à-dire par exemple par rapport au linge, après le lavage, c'est quand même considéré comme formant une seule pièce jusqu'à ce qu'ils se mettent à les défaire. Verominu, et là-dessus Rabbi Irmia pose une question en citant une Mishnah de Kelim dans laquelle il est dit Makel Sheasao Yad Le Kordom. Un simple bâton duquel il s'est servi pour faire un manche à une hache, sans l'y fixer de façon définitive, Chibur le Touma Beshat Melacha. Il ne forme qu'une pièce avec la hache pour devenir impur, quoiqu'en général, un objet de bois qui ne peut pas contenir ne devient pas impur, mais ici, puisqu'il sert de manche pour une hache qui peut devenir impure, lui aussi peut devenir impur. Tout cela, c'est seulement pendant l'utilisation de cette hache. Beshat melacha in, shelo beshat melacha lo. On voit donc que c'est seulement pendant l'utilisation de la hache que c'est considéré comme formant une seule pièce, mais après l'utilisation, ce n'est plus considéré comme formant une seule pièce, même si on n'a pas commencé à le défaire. Comment se fait-il à propos du linge, c'est seulement à partir du moment où on commence à le défaire que ça ne forme plus une seule pièce. Mais jusque-là, même après le lavage, c'est toujours considéré comme formant un seul ensemble. Et là-bas, c'est seulement tant qu'on l'utilise, mais après l'utilisation, ce n'est plus considéré comme formant un seul ensemble, même si on n'a pas commencé à le défaire. C'est ça la question de Rabbi Irmia. Amarle, Rabbi Zera lui a répondu. Hatam, là-bas, à propos du manche de la hache, Shelo Beshat Melacha, Adam Asui les Orkol le Ben Haetzim. Après le moment de l'utilisation, l'homme va sans doute le jeter parmi ses bois pour pouvoir ranger la hache, pour pouvoir ranger le fer de la hache. Il n'a pas du tout d'intérêt à ce que la hache soit avec le bâton après l'utilisation. C'est pourquoi, une fois qu'il a fini de l'utiliser, ce n'est plus considéré comme formant un seul ensemble. Haha, alors qu'ici, à propos du linge enfilé, Shelo Beshat Melacha Namin Nichale, même après l'utilisation, c'est-à-dire même après le lavage, ça lui plaît aussi que ce soit toujours enfilé ensemble jusqu'à ce qu'il les défasse. Cela pourquoi, dimitanfu hadar mechavar lehu, car si le linge se salit, il pourra les blanchir à nouveau tous ensemble sans devoir les renfiler. C'est pourquoi il est intéressé que, tant qu'il ne les défasse pas, ils soient encore attachés ensemble. Et c'est pour cela que dans la Mishnah de Houktin, il est dit que tant qu'il n'a pas commencé à les défaire, c'est considéré comme formant un seul ensemble. Besura matnula lehashmata mishme de Rav Chisda. Asura, il citait l'enseignement suivant au nom de Rav Chisda. Bepun vedita matnu mishme de Rav Kahana veamrela mishme de Rava. Alors qu'à Pumbedita, il citait le même enseignement qu'on va voir tout de suite, au nom de Rav Kahana, et certains disent au nom de Rava. Mantana hamilta de amur rabanan, kolam chubar lo harehu kamou. Quel est le Tana qui a enseigné, comme on a vu plus haut, que les sages ont dit, toute chose qui est attachée à autre chose est considérée comme l'autre chose, c'est-à-dire qu'elle ne forme qu'un seul ensemble avec l'autre. Par exemple, le linge enfilé par les blanchisseurs, qui est considéré comme un seul ensemble, qui devient impur tout d'un bloc. Alors, soit Rav Chisda, soit Rav Kahana, soit Rava, a cité, au nom de Rav Yuda, au nom de Rav, Amar Rav Yuda, Amar Rav, Rabbi Meir hi. Rav Yuda a dit au nom de Rav, que c'est seulement l'avis de Rabbi Meir, c'est-à-dire que Rabbi Meir considère que plusieurs choses qui sont collées ensemble sont considérées comme ne formant qu'un seul ensemble, mais il y a une discussion. La Mishnah de Houktin suit l'avis de Rabbi Meir. Ditnan, comme nous avons appris dans une Mishnah de Kelim, Bet Hapach ou Bet Hatavlin ou Bet Haner Shebekira. Le réceptacle d'un flacon d'huile qu'on veut réchauffer à proximité d'un fourneau et le réceptacle des épices et le réceptacle d'une lampe qui sont collés à un fourneau mobile. Ces objets étaient comme le fourneau de poterie, mitamin bemaga. Ils deviennent impurs au toucher. Si une impureté a touché l'intérieur de ces objets, le fourneau aussi devient impur, puisqu'il est collé. Et si une impureté a touché l'intérieur du fourneau, ces objets collés aussi deviennent impurs, puisqu'ils forment une seule pièce avec le fourneau. Ven mitamin beavir. Mais ces objets ne deviennent pas impurs si il y avait une impureté dans l'espace, dans l'air du fourneau, quoique le fourneau lui-même est devenu impur si un reptile mort était dans son espace, comme on sait que la poterie devient impure même si l'impureté n'est que dans son air, mais là c'est seulement le fourneau qui est impur et pas les objets qui sont collés, comme la Gemara va expliquer par la suite. Divré Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. On voit donc en tout cas qu'à propos d'une impureté qui vient par le toucher, les choses qui sont collées au fourneau ne forment qu'une seule pièce avec le fourneau, et c'est comparable à l'enseignement de la Mishnah de Houktin à propos du linge qui est enfilé ensemble. Rabbi Shimon metaher, alors que Rabbi Shimon les rend purs, il dit que chaque partie devient impure séparément, c'est-à-dire que si le fourneau devient impur, ces objets ne deviennent pas impurs, et si les objets deviennent impurs, le fourneau ne devient pas impur, quoi que ce soit collé. La Gemara demande, « Bishlama le Rabbi Shimon, kasavar lab kekira damu. » On comprend encore bien l'avis de Rabbi Shimon qui est clair, il pense que ces objets ne font pas partie du fourneau du tout, c'est pourquoi chacun devient impur séparément. Et là le Rabbi Meir, « I kekira damu » Afilou be'avir nami litamu. Mais d'après Rabbi Meir, si ces objets sont considérés comme faisant partie du fourneau, même si le fourneau n'est devenu impur que par son air, que par son espace, eux aussi devraient devenir impurs puisqu'ils en font partie. Ilav kekira damu, afilou be'maga nami lolitamu. Et si on dit que ces objets ne font pas partie du fourneau, même si le fourneau est devenu impur au contact direct avec un reptile, par exemple, eux aussi ne devraient pas devenir impurs si on dit qu'ils ne font pas partie du fourneau. Apparemment, c'est une contradiction. L'Egmara répond, « Leolam lav kekira damu. » Je te dirai toujours que « Deoraita, ces objets ne font pas partie du fourneau. Verabanan hu de gazru behu, et c'est seulement les sages qui ont décrété que ces objets sont considérés comme une seule pièce avec le fourneau, qui sont considérés comme faisant partie du fourneau. Ce n'est qu'un décret de Rabbanan. La Gemara demande toujours, « Igazru behu, afilu be'avir namil itamu. » Si les sages ont décrété qu'ils font partie du fourneau, même si le fourneau n'est devenu impur que par son espace, eux aussi devraient devenir impurs, puisque des Rabbanan, ils sont considérés comme faisant partie du fourneau. Quelle différence y a-t-il entre le fourneau qui devient impur, même par son espace, et les objets qui sont collés qui ne deviennent pas impurs? La Gemara répond, « Avdu behu Rabbanan hekera » Les sages ont fait un signe distinctif à propos de ces objets qui sont collés, qui écrit de loatil misraf ale truma vekodashim. Pour ne pas qu'on en vienne à brûler de la truma ou de la viande de sacrifice qui était au contact avec ces objets collés au fourneau, si le fourneau est devenu impur et que ces objets ne sont impurs que des rabbanan, ce n'est pas une raison suffisante pour brûler la trouma et la viande de sacrifice, mais on risquerait de brûler de la trouma et de la viande de sacrifice au même titre que s'ils étaient devenus impurs au contact avec le fourneau qui lui est impur de Horaïta. Alors pour ne pas qu'on ait cette erreur-là, les sages ont fait un signe distinctif pour qu'on sache que ces objets ne sont impurs que des rabbanan et ne sont pas impurs au même titre que le fourneau lui-même, qu'on n'en vienne pas à une erreur pareille. Tano Rabbanan, nous avons appris dans une braïta, Misporet shel prakim, des ciseaux démontables, Veizmal shel raitni, et la lame d'un rabot qu'on démonte aussitôt après l'usage, Ribour le Touma, sont considérés comme formant une seule pièce, un seul ensemble, pour devenir impur, c'est-à-dire que si une partie est devenue impure, l'autre partie devient aussi impure, quoiqu'ils sont démontables. Ven chibur le hazar, mais ils ne sont pas considérés comme formant une seule pièce à propos de l'aspersion pour les purifier. Si ils sont devenus impurs de l'impureté des morts, il faut les asperger avec de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse pour les purifier. Alors là, il faut asperger chaque pièce à part et on ne considère pas qu'ils ne forment qu'un seul ensemble, qu'il suffit d'asperger une partie et que tout le reste devient pur. La Gemara demande Manafchar. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas. Ichiburhu afilu lazanami. Si on dit qu'il ne forme qu'une seule pièce, à propos de l'aspersion aussi, ça devrait marcher, quoi qu'on ait aspergé qu'une partie. Ilafriburhu afilu letumanami lo. Et si tu veux dire qu'ils ne sont pas considérés comme formant une seule pièce, un seul ensemble, aussi, à propos de devenir impur, il ne devrait pas non plus devenir impur si l'impureté n'a touché qu'une partie. Amar Rava Dvar Torah Beshat Melacha Chibur Ben Netuma Ben Lehazar. Rava a répondu, De Horaïta, au moment où on les utilise, ils sont considérés comme formant une seule pièce, à la fois au sujet de l'impureté, c'est-à-dire pour devenir impur, et à la fois au sujet de l'aspersion pour les purifier. Veshelo beshat melacha eno chibur lo letuma velo lehazar. Et pas au moment de l'utilisation, c'est-à-dire après qu'on les ait utilisés, par exemple, ils ne sont pas considérés comme formant un seul ensemble de horaïta, ni à propos de devenir impur, ni à propos de l'aspersion pour les purifier. C'est-à-dire que de horaïta, il y a une différence majeure entre le moment où on les utilise et là ils sont considérés comme formant un seul ensemble à propos de tout, et au moment où on les utilise pas, auquel ils sont considérés comme étant des morceaux séparés, à la fois à propos de devenir impurs et à la fois à propos de l'aspersion pour les purifier.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.